7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour. Les nouveaux chiffres de la dette publique française sont tombés avant-hier. Celle-ci n'a cessé de gonfler pour atteindre ce trimestre 116% du produit intérieur brut, même si sa progression ralentit légèrement. Face à la crise économique exceptionnelle, des mesures tout aussi exceptionnelles ont été prises le 12 mars dernier, marquent la fin de la rigueur budgétaire adoptée par l'Union européenne depuis le traité de Maastricht. Depuis, la Banque Centrale Européenne a déployé le bazooka monétaire. Mais que faire de cette dette publique grandissante? Bonjour Gisabelle Coupé-Soubéran.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Paris 1 et vous êtes également membre de l'Institut Veblen. Au vu de l'état de cette dette publique française, quelles sont vos préconisations?
Vous l'avez indiqué, la dette Covid fait considérablement augmenter l'encours de dette publique et il faut faire en sorte que ce ne soit pas, si vous voulez, la porte ouverte à l'austérité de demain et que ça ne nous empêche pas de financer la transition écologique dont on a absolument besoin pour prévenir la crise climatique que cette crise sanitaire ne fait peut-être que préfigurer. Alors, je voudrais, si vous voulez, dire un petit mot sur ce débat autour de la dette Covid, parce que ça a pris un tour quand même très très virulent. Et je voudrais tenter de l'apaiser un peu en expliquant la position que plusieurs de mes collègues et moi-même défendons quand nous proposons que la Banque Centrale Européenne abandonne une partie des créances qu'elle détient sur les États de la zone euro pour éviter justement que la dette Covid ne fasse trop augmenter l'encours de dette publique. Et quand on dit cela, quand on propose cela, eh bien, ce n'est pas du tout épouser le discours des anti-dettes. Nous ne sommes pas en train de dire que la dette publique ne doit jamais augmenter. Nous disons simplement attention au cumul de dettes, attention aux conditions de soutenabilité de cette dette et attention aussi au contexte dans lequel la dette augmente. Cette dette publique augmente après avoir beaucoup augmenté pour gérer la crise financière.
Bon alors, on comprend bien que vous ne voulez pas d'amalgame, comme on dit, Gisabelle Coupé-Soubéran, mais il faut, je crois, faire œuvre de pédagogie parce que ces questions de dette, elles sont extrêmement compliquées. Qu'est-ce que vous demandez? Vous demandez que la Banque Centrale Européenne abandonne une partie de ses créances. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a bien, a priori, quelqu'un qui serait, je mets ça au conditionnel, lésé. Si quelqu'un abandonne une créance qu'il a, si quelqu'un décide de ne pas rembourser une dette. Maintenant, en l'espèce, ça va se passer un peu différemment et c'est cela, à mon avis, qu'il faut d'abord expliquer.
Alors expliquons cela. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales qui forment ce qu'on appelle l'eurosystème détiennent à peu près un quart des dettes publiques des pays de la zone euro. Ce que nous disons, c'est que si la Banque centrale européenne et l'ensemble des banques centrales nationales abandonnaient une partie de cette créance qu'elles détiennent sur les États de la zone euro, eh bien, cela permettrait, si vous voulez, de faire en sorte que l'augmentation de la dette due aux dépenses soit compensée par l'annulation de dette. Qui serait lésé dans cette affaire, puisque c'est le fond de votre question?
Exactement.
Qui serait lésé? Uniquement l'eurosystème, la Banque centrale européenne. Or, une banque centrale, c'est une institution tout à fait particulière. D'accord. C'est une institution tout à fait particulière qui a un pouvoir de création monétaire, de création de monnaie centrale. Et d'ailleurs, ce pouvoir de création de monnaie centrale, elle l'utilise abondamment pour gérer la crise sanitaire, comme elle l'a utilisé abondamment également pour gérer la crise financière. Donc, si la Banque centrale raye une ligne à son actif, eh bien, évidemment, ça va entraîner une perte au bilan de la Banque Centrale Européenne. Cette perte va se répercuter sur son capital, qui va diminuer, qui peut même devenir négatif, et qui deviendrait négatif dans ce cas-là. Est-ce grave pour une banque centrale? Ça le serait pour n'importe quelle entreprise, évidemment.
Bien sûr.
Ça le serait également pour une banque commerciale. En revanche, pour une banque centrale, ce n'est pas un problème. Précisément parce que une banque centrale n'a de dette qu'en monnaie centrale. Dans la monnaie qu'elle-même crée et qu'elle a le pouvoir de créer ex nihilo. Donc, si vous voulez, techniquement, c'est tout à fait possible. Après, politiquement, eh bien, il faut accepter cet abandon de créances. Il faut accepter d'abandonner ces créances qui, d'un certain point de vue, mais d'un point de vue plus politique, représentent également un instrument de pression, en fait, hein, sur les sur les États. Donc
mais voilà, attendez, parce que on poursuit votre raisonnement. Ça veut dire que ça ressemble un peu à de la monnaie magique. Qui pourrait être contre de la monnaie magique, puisque je crois que chacun voit bien qu'il est nécessaire qu'il y ait une intervention des banques centrales dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Si on considère que aujourd'hui une partie de cette dette pourrait être effacée, quels sont les arguments contre cette mesure?
Alors, je reviens sur cette expression de monnaie magique, parce que si vous voulez, on a l'impression là de brandir l'insulte suprême quand on dit il n'y a pas de monnaie magique, etc. Mais quand on comprend le processus de création monétaire, on comprend qu'en fait c'est un processus assez presse-bouton, c'est-à-dire que quand la banque centrale aujourd'hui achète massivement des titres de dette publique sur les marchés secondaires aux investisseurs qui veulent les vendre, elle crée de la monnaie. D'accord. Et la création monétaire pour une banque centrale comme pour une banque commerciale, eh bien, c'est tout simplement, si vous voulez, que cette banque centrale décide d'acheter un titre ou bien de prêter de l'argent aux banques, et ainsi, eh bien, elle crédite le compte correspondant. Donc, vous voyez qu'il y a bien un caractère magique finalement dans cette création monétaire. C'est assez presse-bouton. Je précise que l'abandon de créances, l'annulation de dette, ce n'est pas une création de monnaie, d'accord ? C'est à l'inverse d'ailleurs une non-destruction de monnaie. Hein, c'est le fait, si vous voulez, de renoncer au remboursement d'une dette, d'accord ? Alors, à ceux qui, parce que vous m'interrogez sur quels sont les arguments contre, à ceux qui considèrent que ce serait inflationniste, eh bien, ça ne pourrait pas l'être, précisément parce que il n'y a pas de création de monnaie. Il y a une non-destruction de monnaie. Donc, ça permettrait sans doute de ralentir, si vous voulez, la pression déflationniste du moment, mais ça ne créerait pas d'inflation. Et d'ailleurs, c'est presque dommage, parce que nous sommes confrontés, justement, à une situation déflationniste, d'accord ? Et ce qu'il faut, c'est arriver à créer de l'inflation. Est-ce que la Banque centrale va justement arriver, avec ses achats d'actifs du moment, à faire repartir, si vous voulez, l'activité et à regagner sa cible d'inflation ? Sans doute pas, parce que en zone euro, eh bien, les achats d'actifs, ça a très peu d'effets entraînants sur l'économie. Ça a très peu d'effets entraînants, ces effets sont mal distribués, ça fait augmenter, alors, pour le coup, comme partout ailleurs, les prix d'actifs, et ça présente des risques en termes de stabilité financière. Donc, si vous voulez, on est en zone euro condamné, en fait, à utiliser ces achats d'actifs pour éloigner un risque de crise de dette souveraine. Parce que il y a un point clé en zone euro, c'est que nous sommes dans une union monétaire sans union budgétaire. D'accord ? Il y a une monnaie. Et il y a 19
des politiques différentes.
Et oui, tout à fait. Mais ça, c'est crucial, en fait, pour comprendre le problème. Parce que nous sommes confrontés, dans la zone euro, à l'éventualité, si vous voulez, d'une crise des dettes souveraines. En tout cas, nous sommes confrontés à un risque souverain potentiellement plus important qu'ailleurs. C'est ce qui oblige la Banque Centrale Européenne à procéder à ces achats d'actifs. Aux États-Unis, ces achats d'actifs sont réalisés également, mais ils ont un effet beaucoup plus entraînant, parce que il y a une structure de financement de l'économie américaine qui est assez différente. Mais en zone euro, donc, on est condamné à utiliser cet instrument-là sans beaucoup d'effets entraînants. Et vous voyez, le fait, par exemple, d'abandonner des créances, ça relâcherait un peu la pression
On a compris effectivement votre point de vue. Merci beaucoup, Jézabel Coupet-Soubéran. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est 7h23 sur France Culture.